RRB, 16h-19h, le tout info.
Il est 17h46, c'est l'heure de retrouver Léane Colombo et toute l'équipe d'RRB pour Info Soir.
Sonia Backès, invitée du magazine Transparence, c'était ce midi. La présidente de la province Sud et chef de file des loyalistes est revenue sur l'Assemblée de province d'hier et a également évoqué l'avenir institutionnel. Clap de fin pour le 54e sommet du Forum des îles du Pacifique. Il se déroulait à Honiara aux îles Salomon. Le président du gouvernement Alcide Ponga y était présent. Une journée formation pour les tuteurs de jeunes engagés service civique. Depuis 2011, plus de 4600 Calédoniens ont bénéficié de ce dispositif et l'engouement est toujours là. Voilà pourquoi tous les 3 ans, il est nécessaire de reformer des tuteurs. Événement festif majeur en Nouvelle-Calédonie ce week-end. Demain, ce sera la 36e édition du Carnaval de Nouméa. Et ce dimanche, direction Farino pour déguster le verre de Bancoul. En fin de journal, tour d'horizon de notre agenda sport, avec notamment l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie. Plus de 600 participants sont attendus sur le départ, qui sera donné tout à l'heure à 20h. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre, c'est selon Sonia Backès la bonne personne au bon moment. La présidente de la province Sud, qui était ce midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, pense néanmoins que Manuel Valls doit conserver le ministère des Outre-mer, Jean-François Bodin.
La présidente de la province Sud et chef de file des loyalistes s'est largement exprimée sur la situation politique nationale et sur l'accord de Bougival, mais elle a d'abord été interrogée sur les décisions adoptée hier par l'Assemblée de province. Il s'agit notamment du dispositif Sud Sécurité, qui est une aide pour la sécurisation des habitations, alors que la présidente de la collectivité regrette que l'insécurité pollue le quotidien des Calédoniens. Elle a aussi évoqué la mise en place d'une nouvelle stratégie du logement social et la volonté de résorber les squats. Sonia Backès a aussi été interrogée sur le dispositif Sudpro, qui est en quelque sorte victime de son succès.
On est clairement victime du succès de l'opération. On a eu une session ce matin. Malheureusement, les crédits à nouveau de 120 millions ont été consommés en quelques minutes. On arrive malgré tout au bout des patentés qui pouvaient bénéficier du système. Donc on a encore une session au début du mois d'octobre où on va essayer de finaliser l'opération. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui voulaient pouvoir bénéficier très rapidement des crédits, qui n'ont pas pu valider leur devis. Les services sont très efficaces, ils traitent individuellement les gens qui ont connu des difficultés de connexion, etc. Mais c'est vrai qu'on est un peu victime de notre succès, tout simplement parce que les entreprises souffrent, parce que les patentés et les petites entreprises ont été les oubliés du système. Ils n'ont pas du tout été aidés par l'État, ils n'ont pas bénéficié du chômage partiel, puisque évidemment, quand c'est des entreprises individuelles, ils n'ont pas de salariés. Donc c'est vrai que c'est eux qui ont beaucoup subi, et donc cette aide, elle a été à la fois bienvenue, mais du coup, sans doute insuffisante pour un certain nombre.
Sonia Backès rentre de métropole où elle a pu rencontrer de nombreuses personnalités représentant l'ensemble de l'échiquier politique national. Une seule exception, elle n'a pas rencontré les élus de LFI. Interrogée sur la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre, elle estime que c'est la bonne personne au bon moment dans un tel contexte d'instabilité politique.
Je pense que c'est très très dur de trouver un équilibre sur le budget. Tout simplement parce que le problème n'est pas que budgétaire. Le problème, c'est que le Rassemblement national a intérêt à la dissolution, que tout le monde est en campagne présidentielle. Donc, a priori, c'est très dur de trouver un équilibre. Et je pense que si quelqu'un peut le trouver, cet équilibre, c'est Sébastien Lecornu. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais en tout cas, c'est le plus habile dans la négociation. C'est celui qui a gardé les meilleures relations et avec le Parti socialiste et avec le Rassemblement national. C'est celui qui, s'il y a des équilibres trouvables, peut les trouver. Donc je pense que c'est un bon choix, en dehors du fait que c'est un ami, mais je pense que c'est le meilleur choix à ce moment de l'histoire. Je ne sais pas s'il réussira, je pense que le challenge est compliqué, compte tenu de la proximité avec les élections présidentielles, mais c'est la bonne personne au bon moment.
Sonia Backès connaît très bien Sébastien Lecornu, et elle a échangé avec lui sur l'accord de Bougival, mais elle pense que Manuel Valls doit rester au ministère des Outre-mer.
Je lui ai fait part évidemment du soutien au projet de Bougival, qu'il soutient également. Je lui ai aussi fait part du fait que je pense que ce serait plus simple pour la Nouvelle-Calédonie si Manuel Valls rester à ce stade. Sébastien Lecornu est un irritant pour le camp indépendantiste, il faut dire les choses. Les uns et les autres n'ont pas gardé un bon souvenir de lui. Et Manuel Valls est un ami des indépendantistes plus que c'est un ami à nous. Donc je pense qu'il y a besoin d'un équilibre. Donc Manuel Valls n'est pas mon meilleur ami et chacun sait.
Ça va mieux quand même.
Ça va mieux évidemment, mais je pense que pour la Nouvelle-Calédonie, dans le processus dans lequel on est, à l'endroit où on en est rendu avec un projet de loi constitutionnelle à porter, une consultation organisée, etc., je pense que Manuel Valls reste reste la bonne personne pour porter le dossier calédonien.
Et concernant la suite du processus de Bougival, la chef de file des loyalistes rappelle que l'examen par le Sénat de la proposition de loi organique pour le report des provinciales est prévu le 20 septembre, mais que cela pourra être retardé si le nouveau gouvernement n'est pas encore constitué. C'est un texte qui sera de toute façon examiné en urgence et prochain texte, mais derrière le report, il y a la question du corps électoral.
Le problème de fond, c'est que tout le monde veut aller aux élections, moi la première. Je considère que ce mandat est trop long, que la légitimité des élus passe par les élections. Je suis démocrate et donc il faut que les élections aient lieu. Et honnêtement, je préférerais que les élections aient lieu le plus rapidement possible. Sauf qu'on n'a pas de corps électoral. On a un corps électoral actuel qui sera de toute façon contesté par nous, donc, et on gagnerait sans doute la contestation, donc ça veut dire que quelques mois après l'élection, elle serait annulée et on devrait recommencer. Quelle stabilité ça apporte à la Nouvelle-Calédonie ? Aucune. Ça, c'est si les élections avaient lieu avec un corps électoral gelé, et si jeudi prochain, le Conseil constitutionnel décide que le corps électoral ne peut pas rester gelé, les indépendantistes vont contester le fait que les élections se fassent avec un corps électoral dégelé sans accord global. Donc, c'est insoluble. Évidemment qu'on souhaite faire les élections le 30 novembre prochain. Je pense que tous les élus le souhaitent. Ce mandat, il n'en finit plus. Mais les indépendantistes ne peuvent pas dire d'un côté on veut un accord global, le signer, parce que je rappelle quand même qu'ils l'ont signé, et puis d'un autre côté dire bah non, finalement il faut les élections alors que le problème du corps électoral n'est pas réglé.
Sonia Baquès fait allusion à la QPC de l'association Un cœur, une voix, sur laquelle le Conseil constitutionnel doit se prononcer prochainement. Elle s'est aussi exprimée sur le projet de loi constitutionnelle et plus largement sur le calendrier de la mise en œuvre de Bougival. Mais pour elle, le vrai problème, c'est celui de la légitimité au sein du FLNKS.
Les gens qui ont signé Bougival ont été nommés officiellement par le FLNKS, par le bureau politique du FLNKS, pour être les négociateurs. Au final, on dit « Ah ben non, ceux-là aussi, black boulet, ils sortent, et donc on en a des nouveaux ». Moi, j'ai rien contre les nouveaux. Je discute avec les gens qui sont légitimes. Mais sauf que, qui nous dit que demain, on trouverait un nouveau compromis avec les personnes qui sont désignées et qu'il n'y en a pas d'autres qui arriveraient de derrière et qui diraient « Ah bah non, on va leur taper dessus à eux aussi. Ils dégagent et c'est des nouveaux. » C'est pas sérieux. La réalité, c'est qu'il y a une partie des gens qui sont aujourd'hui décideurs au sein du FLNKS, pas tous, mais il y a une partie qui ne veut pas d'accord. C'est la théorie du chaos. L'accord, ça permet aux gens de rester, ça permet aux gens d'être bien ici, et donc ça ne permet pas la stratégie de faire partir les gens qui est la stratégie d'une partie du FLNKS. Donc ceux-là ne veulent pas d'accord, ils veulent le chaos, et donc ils n'ont aucun intérêt à ce que qui que ce soit signe.
Face à toutes ces incertitudes, le processus de Bougival peut-il échouer ? Sonia Baquès ne le croit pas, et elle reste persuadée qu'il faut avancer, mais elle estime qu'il faut rester prudent et patient.
Si Bougival, la consultation donnait lieu à un non des Calédoniens, là, très clairement, on reviendrait à ce qu'on appelle la situation ainsi créée, et donc on viendrait à la réexaminer, et il y aurait de nouvelles discussions, de nouvelles négociations. Je ne crois pas que ce soit la probabilité la plus importante. Je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est de faire arriver à la consultation. Une fois qu'on est arrivé à la consultation, je crois dans le fait que les Calédoniens soutiennent cet accord, mais il faut y arriver. Et ça, je ne suis pas sûre que ça arrive avant le mois de février, vu toutes les incertitudes qu'il y a.
Une interview de Sonia Baquès qui sera rediffusée dimanche soir, ce sera juste après le journal de 17h45, et elle est aussi disponible en podcast audio et vidéo sur rrb.nc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. La province Sud a-t-elle raison, selon vous, de passer à 21 ans au lieu de 18, l'âge légal pour acheter de l'alcool ? Si vous pensez qu'elle a raison, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 92% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que Sébastien Lecornu va réussir à former un gouvernement qui échappera à la censure. Ils sont 8% à penser qu'il n'y arrivera pas. L'actualité dans la région avec la fin du 54e sommet du Forum des îles du Pacifique, ouvert à Honiara au Salomon en début de semaine. Les participants ont adopté une déclaration commune qui vise à assurer la paix dans la région. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Une page d'histoire s'est écrite hier à Honiara, où le sommet du Forum a adopté une résolution faisant du Pacifique un océan de paix. Cette déclaration vise à garantir non seulement la paix, mais aussi l'unité et la souveraineté des nations insulaires de la région. Le concept a été élaboré et défendu par le Premier ministre fidjien, Sitiveni Rambuka, lequel a estimé dans un vibrant discours que, je le cite, « notre unité fait notre dignité et notre force ». « Rien ne doit s'interposer entre nous », a-t-il poursuivi, « pas même les intérêts économiques ou la montée du niveau de la mer. La déclaration de l'océan de paix constitue la promesse que le Pacifique sera une région libérée de la coercition, de la militarisation et des interférences extérieures, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Alcide Ponga, qui participait au Forum des îles du Pacifique, a signé cette déclaration commune avec les dirigeants du FIP. Mais au cours de cette semaine de travail, le président du gouvernement s'est particulièrement concentré sur les questions calédoniennes, Jean-François Baudin.
Oui, bien sûr, Alcide Ponga a été attentif aux questions générales abordées lors de ce sommet, celles liées au réchauffement climatique et ses conséquences, ou encore celles qui concernent la sécurité et le trafic de drogue de plus en plus présent dans le Pacifique. Mais il n'a pas non plus oublié le dossier calédonien et il a fait passer quelques messages à la Troïka. La Troïka est composée du président actuel du Forum des îles du Pacifique, de son prédécesseur et de son successeur. Cette Troïka, on se souvient qu'elle avait mené une mission en Nouvelle-Calédonie quelques mois après les émeutes de mi-2024. Il fallait veiller au rapport final, a expliqué Alcide Ponga.
Il y avait des éléments de langage sur lesquels il fallait qu'on se cale, non seulement dans le courant de la semaine, mais également pendant les bilatérales que j'ai pu avoir avec le premier ministre de Tonga, un des ministres de Vanuatu, le président Broderson de Tahiti. Je vois également demain M. le Premier ministre Salomon. On a passé quelques messages. L'idée était surtout pour moi de mettre le doigt sur le fait que depuis 2024 jusqu'à 2025, Paris-Bougival, il y a des choses qui se sont passées. Il y a notamment eu la séquence de Paris de l'année dernière, il y a eu la séquence de Deva, et il y a eu la séquence de Bougival dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, ils l'ont bien compris. Alors, l'idée, c'était que les éléments de langage qui étaient sur le rapport, on puisse s'accorder entre nous sur le fait que ça ne remette pas de l'huile sur le feu ou que ça ne resserre pas pour remettre en cause des choses qui avaient été faites et qui avaient été actées.
Le FLNKS a sollicité ces dernières semaines une nouvelle mission de la Troïka du FIP en Calédonie, après la séquence de Bougival. Le contexte est tout autre, a expliqué Alcide Ponga aux membres du forum.
J'ai déjà donné ma position sur ça. J'ai demandé à ce que mes frères du Pacifique me respectent en tant que président de la Nouvelle-Calédonie. Je ne me sens pas d'aller inspecter ou d'aller regarder sur les problématiques qui se passent entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook. Je l'ai dit devant le Premier ministre néo-zélandais et devant le Premier ministre des îles Cook. Donc je pense que mes frères du Pacifique, là, ils le comprennent aussi, nos amis du Pacifique, parce que ce sont des affaires qui restent internes aujourd'hui à la France, quoi.
Au-delà des dossiers politiques, Alcide Ponga plaide pour un enracinement régional plus fort de la Nouvelle-Calédonie. Les pays membres peuvent s'appuyer les uns sur les autres dans plusieurs secteurs. C'est notamment le cas dans le transport aérien domestique.
Au-delà des problématiques que l'on a sur nos îles, il y a un travail qui va être fait avec le Vanuatu pour voir si on ne peut pas accompagner également le Vanuatu sur le plan domestique de chez eux. C'est des discussions qu'on aura demain et après-demain, parce qu'il faut qu'on ait une réflexion globale. Nous, en Calédonie, avec Air Calédonie, on ne peut pas tenir un business qu'avec nos vols domestiques et puis faire que du local. À un moment donné, il faut qu'on se pose la question de façon très, très pragmatique et de façon très économique et business sur la question de l'aérien avec l'ensemble de nos collègues. Moi, je suis à fond là-dessus. Je sais qu'il y a Tahiti et Fidji qui réfléchissent également. Ça fait partie des questions qui ont été abordées pendant la semaine.
Alcide Ponga qui a donc fait le point par visioconférence sur sa présence au Forum des îles du Pacifique. Il poursuit encore ses rencontres en marge de sommet et sera de retour dimanche sur le territoire.
Dans le Pacifique toujours, un bilan positif pour le tout premier Forum des entreprises UE Pacifique. Il s'est tenu à Nandi du 3 au 5 septembre dernier en présence de décideurs politiques et de chefs d'entreprise. Le commissaire européen chargé des partenariats internationaux, Joseph Sikela, a annoncé une enveloppe de près de 36 milliards de francs pour le Pacifique, fléché vers la lutte contre le réchauffement climatique. Il a par ailleurs signé une convention avec les trois territoires français du Pacifique sur les questions d'autosuffisance alimentaire pour 4,2 milliards de francs. Par ailleurs, à l'occasion de ce sommet, la France a présenté plusieurs programmes de coopération dans les domaines économiques, culturels et académiques, dont un concernant le nickel. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique.
Les États insulaires du Pacifique députés ont été très intéressés par les rencontres qu'ils ont pu avoir et les possibilités d'investissement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis et Futuna. En ce qui nous concerne, nous, le secrétariat permanent pour le Pacifique, on a notamment le projet d'exportation de scories de nickel calédonien. C'est évidemment de la responsabilité du gouvernement Nouvelle-Calédonie, mais nous avons été sollicités par des États insulaires, Kiribati, Tuvalu, Îles Marshall, Tonga et Vanuatu, qui ont besoin de ce matériau parce qu'ils sont victimes d'érosion côtière et de montée des eaux. Ils ont interdit donc le creusement de leurs lagons et ils ont besoin de matériaux stables, solides, parce que leurs îles disparaissent. Ils veulent créer des murs de lutte anti-érosion pour survivre.
La France porte aussi des projets autour de l'amélioration de la connectivité aérienne avec l'ouverture d'une ligne aérienne desservant Cook, Samoa, Tonga et Fidji depuis la Polynésie française. La France veut aussi ouvrir un centre de maintenance des ATR pour les compagnies de la région à Tahiti et à Nouméa. Il y a aussi des projets en lien avec la mobilité des étudiants ou encore la préservation des productions audiovisuelles océaniennes. Ce matin, Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique, a également commenté l'absence de la France au sommet annuel du Forum des îles du Pacifique qui s'est réuni, je le rappelle, à Honiara cette semaine.
C'est la première fois que les partenaires de dialogue n'ont pas pu se rendre au sommet annuel du Forum des îles du Pacifique. Cette décision a, semble-t-il, été prise par la présidence salomonaise des îles du Pacifique parce que les conditions de participation des partenaires de dialogue sont en cours de révision et n'avaient pas été encore finalisés. Ils ont décidé d'en inviter aucun. Ce qu'on a lu dans la presse régionale, en tout cas, c'est qu'il y avait 6 États du Pacifique, il y a quelques années, qui reconnaissaient Taïwan. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3, c'est Tuvalu, Îles Marshall et Palaos. Et que l'objectif de la Chine, c'est de faire de sorte qu'il n'y en ait plus aucun. Donc l'enjeu, c'est en effet cette question de Chine-Taïwan, sachant que Taïwan a un statut de partenaire, pas de dialogue, mais de développement avec le FIP, qui a été agréé en 1992 et que vraisemblablement la Chine aimerait renégocier.
Un forum des entreprises UE-Pacifique qui était également le thème des Jeudis de l'économie qui sont disponibles sur notre site internet rrb.nc. Véronique Roger-Lacan ajoute que le forum des îles du Pacifique doit aussi agréer le rapport d'observation de la mission d'information du FIP venu en Nouvelle-Calédonie en octobre 2024. L'État poursuit son engagement financier à la Nouvelle-Calédonie. Dans un communiqué, l'État revient sur le déblocage de la deuxième tranche du prêt garanti par l'État de 28,8 milliards de francs, Jean-François.
Une seconde tranche qui était conditionnée à un train de réforme. L'objectif fixé est le retour à l'équilibre des comptes sociaux et le redressement des finances publiques d'ici 2027. L'État affirme que le plan de réforme budgétaire, sociale et fiscale adopté par le Congrès en juillet 2025, bien qu'encore insuffisant, est une première contribution au redressement des finances du territoire. Malgré tout, conscient de sa responsabilité vis-à-vis des Calédoniens et de l'urgence à renforcer le financement des dispositifs d'aide aux plus démunis, l'État a décidé de procéder au versement de la seconde tranche du prêt de l'AFD. 2,520 milliards seront spécifiquement fléchés vers les communes pour financer les dispositifs sociaux, notamment au bénéfice des jeunes et de leur insertion dans la société. L'État affirme dans ce communiqué reconnaître par cette décision les premiers efforts fournis par la Nouvelle-Calédonie et réaffirme son soutien et sa volonté d'accompagner le territoire dans la durée pour refonder son modèle économique et social. La mission interministérielle dirigée par Claire Durieux est notamment chargée d'assurer cet accompagnement construit autour d'engagements réciproques.
L'État rappelle qu'en 2024, dans le contexte de crise politique, économique et sociale sans précédent, le soutien de l'État à la Nouvelle-Calédonie s'est élevé à 324 milliards de francs, soit plus de 24% du PIB 2023 du territoire. L'UGPE se mobilise contre la fermeture des collèges de Ponérihouin et Thiot. Mercredi dernier, un conseil consultatif de l'enseignement s'est réuni à Nouville. À l'ordre du jour, la fermeture des collèges catholiques de Théouti à Ponérihouin et le collège catholique Francis Rouge à Thiot. Les parents d'élèves qui demandaient le maintien des collèges se sont regroupés pour assister au conseil. Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l'éducation, présidait cette instance. Elle aurait refusé la participation des parents à ce conseil, précise l'UGPE. l'UGPE dans un communiqué. Notre mobilisation devrait avoir lieu pour que, je cite, « la voix des familles soit vraiment entendue ». Fin de citation. En bref, cet appel urgent à la solidarité et au don du sang en cette veille de week-end, l'Association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie tire la sonnette d'alarme. Les réserves de sang sont actuellement fragiles, notamment pour le groupe O+. Malgré la mobilisation de ces dernières semaines, les stocks sont toujours insuffisants. Le centre de don de Nouméa sera donc exceptionnellement ouvert avec ou sans rendez-vous les lundis 15 et 22 septembre de 7h15 à 18h. Et en attendant, il est 18h passé de 6 minutes. Première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Tagada, tagada! Les fraises de Païta sont là! Encore plus belles, encore plus goûteuses, avec un parfum unique et une qualité exceptionnelle. Ce week-end, on se donne tous rendez-vous aux fraises de Païta. Tagada, tagada! Les fraises de Païta sont là!
Une bonne nouvelle, les fraises de Païta sont en promotion tout le week-end. Les fraisiers de Païta, 3 points de vente au 6e kilomètre, aux fraisiers de Païta et en face de la pharmacie de Sainte-Marie.
Info soir, Léana Colombo.
Justice et 10 ans de réclusion criminelle pour l'homme accusé de violence sexuelle sur sa cousine mineure. Ces deux derniers jours, un homme était jugé aux assises pour des faits de violence sexuelle commis entre 2014 et 2020. L'accusé encourait jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Sa peine de prison ferme est assortie d'une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Un homme d'une trentaine d'années est mort ce matin après avoir chuté du pont des Érudits. La piste du suicide est privilégiée. Les pompiers sont intervenus vers 8 heures. Une enquête est ouverte. En juillet dernier, déjà un homme s'était jeté de ce pont, du pont du Dumbé à Molle, et avait percuté le pare-brise d'une voiture avant de décéder au Médipol. Au chapitre des faits divers, toujours un homme de 35 ans interpellé hier par la BAC. Le forcené s'était retranché chez lui, rue Collard, dans le quartier de Montravel, pendant plus d'une heure, après avoir agressé l'un de ses voisins à l'arme blanche. L'homme s'est finalement laissé interpeller sans résistance. La victime a été légèrement blessée aux avant-bras et derrière une oreille. Lors de la perquisition, deux couteaux ont été découverts. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser qu'il s'agit d'un acte gratuit. L'homme sera présenté à la justice demain. Et également, les pompiers sont intervenus vers 16h pour un feu de maison inhabité à Logicop. L'incendie n'a pas fait de victimes et ne s'est pas propagé aux habitations alentours. L'intervention aura mobilisé les soldats du feu durant près d'une heure. Une nouvelle expérience numérique à bord du Betty Show. Le mois dernier, la Sudil Betty Show a signé un partenariat avec la société Moment qui propose une plateforme de divertissement de service et accessible à tous les passagers. Les 355 passagers qui feront la traversée pour les îles Loyauté ou pour l'île des Pins pourront ainsi profiter de ces services numériques. Édouard Castin est le directeur général de la Sudil Betty Show.
On cherchait depuis un certain temps un partenaire pour faire du divertissement à bord, pour permettre à nos passagers, quand les traversées sont assez longues, comme pour les loyautés, de regarder des films ou des séries à bord. Et puis, au cours de nos recherches, on est tombé sur cette société qui est une société française, qui a développé un outil qui nous convenait parfaitement. Donc, on s'est approché d'eux et on a mis en place ce partenariat qui a commencé le mois dernier. Alors, en fait, comment ça fonctionne? Vous utilisez votre propre appareil, c'est-à-dire smartphone, tablette ou ordinateur. Par contre, vous devez vous munir de vos écouteurs. Et ensuite, vous flashez un QR code à bord qui vous envoie sur une plateforme dans laquelle vous allez trouver des films, des séries, des jeux, un peu comme dans les avions. Et ensuite, vous regardez les films ou les séries qui vous intéressent.
Des propos recueillis par Kéline Daboicou. Une journée de rencontres et d'échanges à la FOL. Les tuteurs de jeunes engagés service civique passent par la case reformation pour pouvoir accompagner les jeunes intéressés par le dispositif. En Nouvelle-Calédonie, ils sont près de 150 à devoir repasser leur agrément dans les 3 ans. C'est pour cela que le Haut Commissariat et la FOL, opérateur unique de formation sur le territoire, ont organisé une journée construite autour d'ateliers. Près de 40 tuteurs ont bénéficié de cette reformation. On les écoute.
Je suis médiateur social de la Croix-Rouge, tuteur secondaire. Au début, j'avais fait une formation de tutorat service civique. Et là, ça fait tous les deux ans. Moi, j'ai fait en 2022. C'est pour me remettre à niveau parce que comme je reçois toujours des services civiques chaque année, il y a beaucoup de formalités qui changent, on est obligé de suivre aussi les formations. Aussi.
Je suis agent d'entretien à Fort Terrain-Bas. On a des questions qu'on se pose en suspens et puis on vient pour éclaircir les choses. Quoi.
Je suis surveillant d'éducation à l'internat du Coney. Ça m'a encouragé parce que la jeune que j'ai suivie, maintenant, elle a réussi son concours d'agent d'éducation. Et avant qu'elle passe ces concours-là, on a fait les démarches ensemble pour pouvoir arriver là. Et je suis fier de faire cela avec elle parce que ça encourage à continuer à m'occuper des services civiques.
Le service civique a été déployé en 2011 en Nouvelle-Calédonie et son engouement ne diminue pas. En un peu moins de 15 ans, ce sont 4685 jeunes qui ont bénéficié de cette étape de vie à l'éducation citoyenne. Au niveau national, plus de 850 000 jeunes se sont déjà engagés dans un service civique depuis 2010. Actualité religieuse en Calédonie avec un anniversaire. La congrégation des petites filles de Marie fête depuis ce matin et jusqu'à dimanche son jubilé. L'église de la Conception vivra au rythme des 150 ans de la congrégation fondée le 12 septembre 1875 par Sœur Marie de la Croix. Au programme de cet anniversaire, une exposition sur la congrégation, des échanges et du partage.
Je suis là parce que je suis originaire de l'île des Pins. Je voulais honorer les religieuses, il y a une trentaine originaires de l'île des Pins. Puis leur fondatrice, Sœur Marie de la Croix, elle a été enseignante en 1859 à l'île des Pins. Et puis elle a formé, entre autres, les petites filles de Marie, mais avant, la reine Hortense.
Je suis de la congrégation des sœurs missionnaires de la Société de Marie. Alors si je suis là, présente à cette journée, d'abord parce qu'aujourd'hui, c'est le jubilé des 150 ans depuis la fondation de la congrégation des petites filles de Marie par sœur Marie de la Croix. Et puis en même temps, c'est la fête patronale du Saint-Nom de Marie, de toute la famille mariste.
Je suis le président du comité paroissial de l'île des Pins. C'est un peu les représentants de la vieille Hortense, parce que c'était une des premières sœurs, mais comme ça fait rappeler des souvenirs de nos grands-mères, parce qu'il y a quand même plusieurs filles de l'île des Pins au début. Il y en avait à l'île des Pins à l'époque. Ouais.
Une messe sera célébrée ce soir à 18h par Mgr Sioné Poé, puis demain des jeux scéniques sur l'itinéraire de Sœur Marie de la Croix reprendront à 8h.
RRB, il est 18h13.
L'heure de voir l'actualité festive de ce week-end. Animation tout d'abord demain soir à Sainte-Marie avec Inda Boicou, le carnaval de Nouméa.
Il se rend 13 groupes de carnavaliers, soit 700 personnes dans le défilé pour cette 36e édition. Le départ sera donné à 18h depuis le rond-point de l'eau vive à Nguéa jusqu'au parc urbain de Sainte-Marie. Le public est attendu à partir de 16h avec de nombreuses animations, des stands de restauration et un DJ pour assurer l'ambiance musicale. Les précisions d'Aurélie Auduro, chef du service animation et rayonnement de la ville de Nouméa.
On n'a pas mis de thème cette année parce que c'est vrai que les carnavaliers toujours débordent d'imagination et puis ça permet d'avoir différents thèmes et c'est vraiment au choix des associations ou des troupes qui se présentent. On a quelques nouvelles troupes cette année, c'est vrai qu'on a nos habitués. Cette année on a une troupe Shine Future Colada qui est une nouvelle troupe. On a Ruiz Tahiti Nui qui a déjà peut-être participé, mais on ne les avait pas vus depuis un moment. Et sinon, on a évidemment les troupes qu'on a l'habitude de voir avec la bande à Momo, Afro Caraïbe, on a Pinky Paul aussi, ça fait plusieurs années qu'ils sont avec nous. On a la PEHMC aussi, et puis on a la CAPA, et on a aussi la CAF. Et on a bien sûr notre fanfare Malawi aussi.
L'objectif de cette édition 2025 ?
S'amuser, passer un bon moment ensemble, de la joie, de la bonne humeur, passer un moment en famille. Comme je dis, on a beaucoup d'animations qui sont prévues. On a des spectacles aussi prévus au parc urbain. Donc c'est vraiment passer un moment convivial tous ensemble, s'amuser et faire la fête au carnaval.
En tête du cortège de ce 36e carnaval de Nouméa, le maire Sonia Lagarde et son conseil municipal. Ils partiront demain à 18h du rond-point de l'eau vive à Nguéa jusqu'au parc urbain de Sainte-Marie.
À Farino, le verre de Bancoul sera à l'honneur ce dimanche au marché de Mamie.
Au programme de 8h à midi, les visiteurs profiteront des produits du terroir et vivriers de l'artisanat local Et dès 10h30, ce sera l'incontournable moment gourmand avec la dégustation de verres de Bancoule crus et cuits sur la place de la mairie de Farineau.
Et direction la province des Îles avec l'édition 2025 de la Foire des Îles Loyauté qui a ouvert ses portes ce matin à Lifou.
Maré, Lifou, Ouvéa et Tiga se retrouvent pour présenter le meilleur de sa production agricole, ses produits de la mer, artisanaux, horticoles et bien d'autres produits qui font les richesses de la province des Îles, et ce jusqu'à ce dimanche 14 septembre.
Merci Kélinda Boicou. 18h15, on va marquer une seconde pause très courte avant de passer au sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
La fin de votre journal Le Sport avec Eleana Colombo.
Et on ouvre notre agenda du week-end en métropole avec du football, Léo Fichou.
Oui, après les premiers matchs de qualification à la Coupe du Monde, la Ligue 1 est de retour. Demain, en ouverture de cette journée, Marseille recevra Lorient au stade Vélodrome. À suivre dimanche matin pour nous, Nice-Nantes, Auxerre-Monaco. Lundi matin, Lille recevra Toulouse, le PSG accueillera Lens. À suivre encore Metz-Angers, Brest-Paris-FC, Strasbourg-Le Havre et Rennes-Lyon.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Et du rugby également avec la deuxième journée du Top 14, le championnat de France Élite.
Les matchs se joueront dimanche et lundi matin. À suivre dimanche d'abord Montauban-Lyon, Bayonne-Montpellier, Pau Stade Français, La Rochelle-Clermont, Toulouse-Perpignan et Toulon-Castres. Lundi matin, le Racing 92 recevra l'Union Bordeaux-Bègles. Le rugby, c'est aussi dans notre hémisphère la quatrième journée déjà du Rugby Championship. À suivre demain à 15h, Australie-Argentine et à partir de 18h05, un nouveau choc entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui, je le rappelle, est champion du monde en titre.
Du rugby au féminin également avec la suite de la Coupe du Monde en Angleterre. L'équipe de France jouera dimanche soir son quart de finale. Ce sera face à l'Irlande. Coup d'envoi de la rencontre à 23h. Au chapitre sport mécanique, MotoGP et rallye ce week-end.
Le MotoGP d'abord avec la 16e manche du championnat du monde. Pilotes et écuries se retrouveront sur le tracé Marco Simoncelli de Misano pour le Grand Prix de San Martin. Sur quatre roues, cette fois on suivra ce week-end la 11e manche du championnat du monde des rallyes. Ce sera du côté du Chili.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Sur le territoire, le rendez-vous sportif du week-end est donné dès ce soir au Yala Ranch. Le départ de l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie est prévu tout à l'heure à 20h. Événement phare pour les amateurs de course en pleine nature, Léo.
Oui, pour cette 8e édition, l'UTNC se décline sur plusieurs distances. Il y a la distance Rennes d'abord, celle qui s'élancera à 20h sur 100 km. Mais il y a également le 50, le 20 et enfin le 10 km qui peut se faire en chrono ou en rando. Et après l'avoir remporté à 3 reprises, cette année, Angélique Plaire, la nouvelle directrice de course, elle nous a livré quelques secrets sur le parcours que vont emprunter les 62 trailers au départ du 100 km. On l'écoute.
Ils vont partir directement vers le GR, donc ça, on le connaît. Il y a des petites parties surprises, comme la remontée du camp bloc que certains ne connaissent pas. Ils se sont laissés un petit peu la surprise le jour J. Et après, voilà, le site du Yala Ranch qui nous accueille, et je les en remercie, qui fera office de gros PC et de gros village, autant pour les arrivées que pour les milieux de parcours sur le 100 et le 50 km. Ils vont avoir quelques passages de rivière. Je pense qu'il va faire froid aussi. Donc voilà, si j'ai un conseil encore à donner, c'est vraiment d'anticiper autre que le matériel obligatoire des vêtements chauds, parce qu'il faisait quand même très froid, j'y suis allée ce week-end. Et évidemment, tout le Zuma que beaucoup n'explorent pas, mais qui révèle pas mal de difficultés, mais de beaux paysages.
62 trailers donc au départ de l'UTNC 100 km ce soir à 20h et en tout plus de 600 participants à cette UTNC 2025 8e édition. La remise des prix se fera dimanche à 10h30 au Dumbéa Mall.
Du football aussi ce week-end avec les demi-finales de la Super League.
À 14h demain, le CA Saint-Louis sera opposé à Tigasport. Ils s'étaient déjà affrontés à ce stade de la compétition. C'était lors de la Coupe de Calédonie. Victoire 2-0 de Tigasport sur le CA Saint-Louis. Une revanche donc demain. Puis à 17h30, duel entre l'AC Gaïcha et Yengensport. Les deux rencontres se jouent bien évidemment au stade Numadélé et seront diffusées sur Pacific Plus à la télé et puis sur la chaîne YouTube de la Fédération Calédonienne de Football.
Et notez qu'en futsal, la phase régulière continue avec des rencontres à Ponérihouin, Koné et Nouméa ce week-end. La dernière réunion hippique de la saison, c'est demain à la fois également.
9e et donc, oui, dernière réunion effectivement avec 5 courses au programme sur l'hippodrome Banu. La première aura lieu à 11h20. La dernière course, ce sera le Grand Prix du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il est prévu à 15h20.
En motocross, rendez-vous dimanche à la Tamois sur la propriété Cheval pour la dernière course sur Prairie de la saison. Parmi les pilotes, on retrouvera Arnaud Colson, le Calédonien récemment sélectionné en équipe de France pour la 53e Coupe de l'Avenir en Belgique début octobre. Et puis on termine avec un mot de padel. Le club du Mont-Coffin organise demain et dimanche 2 tournois féminins, un P250 et un P25 dames. 18h passé de 21 minutes, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel en ce début de week-end, c'est avec vous Pierre.
La vigilance jaune pour Forte Houle sera activée demain samedi. Elle concernera le sud-ouest de la Grande Terre, de Boulou-Paris au Mont-d'Or, ainsi que l'île des Pins. La houle de sud de sud-ouest s'amplifiera en journée pour atteindre les 3 mètres. Donc, pour les coups de pêche, il faudra attendre la nuit de samedi à dimanche. Dans la nuit prochaine, une bande nuageuse remontera vers le nord, apportant des averses éparses. Ces pluies deviendront plus rares au fil des heures et la lune fera de belles apparitions. Le vent s'établira au secteur sud autour de 10 à 15 nœuds et se renforcera à 15 à 20 nœuds sur les loyaux et la pointe nord. Le long de la côte est, il restera plus faible, voisin de 5 à 10 nœuds en début de nuit. Côté température, la douceur dominera entre 17 et 21 degrés près des côtes et aux loyautés, tandis que l'intérieur conservera une ambiance plus fraîche entre 12 et 16 degrés. Demain matin, le soleil dominera sur l'est et le nord. Ailleurs, l'Alizé transportera encore quelques formations nuageuses, parfois accompagnées de faibles ondées. Ce vent de sud-est soufflera souvent entre 15 et 20 nœuds, mais il restera plus modéré le long de la côte test où il atteindra 10 à 15 nœuds.
Et merci beaucoup Pierre. Alors je retiens qu'il faut attendre hein, pour les coups de pêche. Hein, mais bon.
Exactement.
Merci beaucoup Pierre. C'est la fin de cette édition.